Métaphore. Depuis Stettin sur la Baltique, jusqu'à Trieste sur l'Adriatique, un rideau de fer s'est abattu sur le continent. Winston Churchill, le 5 mars 1946. Contraste. Mes chers compatriotes américains, ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous. Demandez ce que vous pouvez faire pour votre pays. Mes chers concitoyens du monde, ne demandez pas ce que l'Amérique peut faire pour vous, mais ce qu'ensemble nous pouvons faire pour la liberté de l'homme. John F. Kennedy, le 2 janvier 1961. Métonymie. Un homme dont le père, il y a moins de 60 ans, risquait de ne pas être servi ici dans un restaurant, peut maintenant se trouver devant vous pour prêter le serment suprême. Barack Obama, le 20 janvier 2009. Introduction. Comment Obama fait-il pour emporter l'adhésion? La boîte à outils la plus simple est aussi la plus efficace. Comment accélérer le rythme dans un discours sans semer ses auditeurs? Comment faire pour être vite compris sans abaisser la quantité d'informations transmises? Regardons comment Obama s'y prend. On peut composer de très belles chansons avec 3 accords. Obama façonne les meilleurs discours avec 3 figures, métaphore, métonymie, contraste. Le vocabulaire de la rhétorique est bourré de mots incompréhensibles. Si vous avez beaucoup de temps à perdre, lisez les livres qui détaillent les figures de style que l'histoire empile depuis 20 siècles. Votre parcours sera jalonné de noms bizarres. Chiasme, zeugme, apocope. Si vous avez un peu de temps à perdre, parcourez d'un œil rapide les discours qui ont marqué le XXe siècle. À côté de ceux d'Obama, ils vous paraîtront plats. De Jaurès à Clémenceau, en passant par Gandhi ou Mandela. Quoique l'on puisse sauver bien sûr sa métaphore historique sur la nation arc-en-ciel. Vous pouvez en revanche lire avec plaisir ceux de Martin Luther King, à l'été 1963, « I have a dream », dont la forme est celle qui s'approche le plus des discours d'Obama. Ou celui de Roosevelt, lançant le New Deal en mars 1933, qui présente d'assez nombreuses formules contrastées qu'Obama n'aurait pas rejetées. De même, celui de Churchill, en mai 1940, lorsqu'il promet « du sang et des larmes » à ses concitoyens, ou encore l'appel du 18 juin que lance De Gaulle la même année. Et si vous n'avez pas de temps à perdre, voyagez léger. Avec une boîte à outils bien composée, vous pouvez booster la puissance de vos messages. Puisqu'un objet est réputé fini, quand on ne peut plus rien lui enlever, selon l'expression de Saint-Exupéry dans le chapitre 3 de « Terre des hommes », nous allons examiner les leviers rhétoriques les plus efficaces. Le comble, c'est que ces leviers, vous les connaissez. Ils dorment au fond de votre cerveau et vous les laissez hiberner. Avec ce livre audio, vous allez vous entraîner à les réveiller. 2 sortes d'alpinistes, 2 sortes de livres. Les alpinistes à l'ancienne partent en longue troupe avec 2 tonnes de matériel, pitonnent chaque rocher, s'encordent même sur le plat et mettent 1 semaine pour faire les grandes jorasses, l'Eiger ou le Cervin. Les alpinistes tels Christophe Profi partent à 3, s'équipent léger, grimpent vite et enchaînent les 3 faces nord mythiques citées précédemment en 40 heures. Il en va de même pour les livres. Celui que vous êtes en train d'écouter a pour ambition de vous donner accès au sommet que visent les gros livres, en faisant l'économie du piétinement. Vous n'avez peut-être pas besoin d'écouter ce livre audio si vous avez remarqué que ce passage mobilise les 3 leviers préférés de Barack Obama. La métaphore de l'alpinisme, pour faire saisir l'efficacité des livres légers, rapides, face aux livres lourds, lents. Le contraste entre les 2 sortes de livres, qui fait mieux sentir l'intérêt du livre léger, et le zoom avant sur les faces nord de trois sommets particuliers. Chacun des quatre chapitres sera consacré à un des outils qu'affectionnent les auteurs efficaces. Chaque chapitre sera structuré de la même manière. Nous commencerons par débusquer ces outils dans des domaines familiers. Nous irons du guide Michelin à Proust, en passant par la publicité. Puis nous regarderons comment Barack Obama écrit ses textes, quasiment ligne à ligne. Son discours d'investiture, prononcé le 20 janvier 2009, nous servira de modèle principal. C'est un des plus grands de l'histoire des prises de parole que l'humanité a pu entendre. Nous regarderons ensuite comment d'autres, parmi les meilleurs, Robert Badinter, Simone Veil, Albert Camus, Martin Luther King, Charles de Gaulle, utilisent chacun de ces leviers. Quelques exercices permettront de s'entraîner à jouer avec ces outils pour en fluidifier l'usage. Voyez ces exercices comme une amorce de nouvelles habitudes. S'entraîner sans cesse est la clé pour améliorer sa pratique. S'ajoutera une courte série d'exemples consacrés à l'art du titre, fabriquer des titres frappants, métaphores, intrigants, métonymie, pédagogiques, contraste, mémorisables, assonance. On conclura sur des conseils pour éviter les ratages, pour pouvoir prendre des risques sans tomber dans l'excès. Le don d'Obama. Obama reconnaissait lui-même, sans fausse modestie, qu'il avait un don en cette matière. Un jour de 2009, le chef de la majorité au Sénat, Harry Reid, se dirige vers Obama pour lui dire que le discours qu'il vient de prononcer était phénoménal. Le jeune président lui répond « J'ai un don, Harry. » Vous connaissez déjà les trois outils du champion, ajoutons-en un quatrième. Les trois principaux leviers rhétoriques utilisés à haute fréquence par Obama, vous les avez rencontrés dans les citations de Churchill, de Kennedy et d'Obama au début de ce livre audio. Une fois que vous aurez pris en main ces trois outils, j'en ajouterai un quatrième qui active la musique des mots proprement dites, les rimes, les assonances, les allitérations. Ce jeu sur la musique des mots n'est pas réservé à la seule poésie. Il est très souvent utilisé par les publicitaires, de « Carglass répare, Carglass remplace » à « Il est fou à Flelou, il est fou », en passant par « Qui va à la plage perd sa place » de parking. Vous pouvez dynamiser une phrase clé, un titre de présentation par la musique des mots, en économie comme en politique, en privé comme en public. Ce quatrième levier se marie facilement avec les trois premiers. Souvenez-vous de la répétition « imparable canonnade » qu'avait lancé le candidat François Hollande. « Moi, président de la République, je... »« Moi, président de la République, je... » En conclusion de son débat télévisé avec le président sortant lors de la campagne présidentielle de 2012. Cette répétition, que les universitaires appellent « anaphore », n'est rien d'autre qu'une façon d'exploiter la musique des mots. Elle est facile à employer, n'hésitez pas à le faire quand vous en ressentez le besoin ou l'envie. De « Moi, président » à « Yes, we can », placez des refrains dans vos prises de parole. La formule « Yes, we can » a fait le tour de la terre. Le mot important de cette formule pour les Américains n'était pas « can », mais « oui ». Ce « nous » fait référence au premier mot du préambule de la Constitution des États-Unis que chaque enfant apprend à l'école. « We, the people of the United States » La formule « Yes, we can » mobilise à un très haut niveau la musique des mots. C'est un mantra que partagent tous les adultes américains ayant fréquenté dans leur enfance une école américaine. De plus, Barack Obama répète jusqu'à 7 fois « Yes, we can » dans ses discours de campagne de l'année 2008, comme l'avait fait avant lui Martin Luther King, répétant 8 fois la formule « I have a dream ». Dans les deux cas, il faut les entendre comme de véritables refrains. Plus récemment, le président Joe Biden, avec son slogan « Build back better », martelant la même consonne à l'initiale des trois mots, joue de manière beaucoup plus classique sur la musique des mots de la phrase qu'il prononce.